Je vous avoue mon embarras par rapport à la question de ce soir, qui est pourtant la question centrale du christianisme et de la foi chrétienne, mais justement la prendre de face comme ça, qui est Jésus-Christ, c'est s'exposer à bien des embûches. Alors je me placerai sous l'égide du grand Pascal qui disait, et c'est d'ailleurs une parole qu'il répète souvent, « Sans Jésus-Christ, nous ne saurions ni ce qu'est Dieu, ni ce qu'est l'homme. » Et il ajoute « Ni ce qu'est la vie, ni ce qu'est la mort. » Je m'arrête un instant à cette référence. Chacun sait que Pascal est chrétien, donc on n'est pas très étonné qu'il nous dise que sans Jésus-Christ, on ne connaît pas Dieu. Puisque pour un chrétien, Jésus-Christ, c'est le dévoilement même de Dieu dans l'histoire des hommes. Mais je voudrais m'arrêter sur la deuxième partie de sa proposition. Sans Jésus-Christ, nous ne saurions pas ce qu'est l'homme. De sorte que, quand on prétend essayer de comprendre, à l'aune de notre raison, qui est Jésus-Christ, on se heurte à une première embûche, qui est au fond d'inverser les rôles, parce que celui qui a bien compris l'homme, c'est Jésus-Christ. Celui qui peut nous parler de l'humanité, c'est lui, et c'est sans doute à sa lumière que nous nous comprenons un peu mieux dans notre humanité. Et voilà que ce soir, je vais faire exactement le contraire, c'est-à-dire essayer de parler de Jésus-Christ, donc j'espère ne pas commettre trop d'hérésie ou d'erreur. En même temps, ça me fait plaisir de parler de Jésus-Christ parce que je remarque que dans notre actualité, on parle beaucoup de religion, mais jamais de Jésus-Christ. Ça, c'est quelque chose qui me frappe beaucoup. Alors, le religieux est omniprésent. On parle des religions, des monothéismes, voire des intégrismes. On parle de l'islam. On parle de l'église. On parle des églises. Et s'il y a bien quelqu'un dont on ne parle jamais, c'est Jésus-Christ. Quel est ce visage oublié que nous n'osons pas rencontrer à nouveau frais? Comme si Jésus-Christ était mort pour la deuxième fois, mort sous le poids de l'oubli et de l'amnésie collective. D'ailleurs, c'est intéressant de se souvenir que notre culture, on le sait, est fondée sur deux grands socles, qui sont la Grèce et puis la tradition biblique, l'héritage biblique, l'Alliance. Et on pourrait récapituler ces deux grands fondements à travers deux figures, qui seraient celles de deux condamnés à mort. Socrate, pour l'héritage grec, et Jésus, pour l'héritage biblique. Socrate qui nous a appris que l'homme était un être de raison. Jésus qui nous a appris que l'homme était un être d'alliance, c'est-à-dire une liberté faite pour aimer. Un mystère d'amour et de liberté. Et à vue strictement humaine, et dans un premier temps je ne parlerai pas comme croyant, à vue strictement humaine, il est impressionnant de constater l'immense héritage que la seule personnalité historique de Jésus nous a légué. Je cite un peu en vrac, et ce sera très incomplet, l'égale dignité de tous les hommes. Idée parfaitement saugrenue dans toutes les civilisations contemporaines du Christ. Que ce soit la Grèce, Rome, ou les autres cultures du Moyen-Orient. Le refus de toute discrimination entre l'homme et la femme, et l'évangile de ce côté-là est impressionnant, entre juifs et païens, entre pauvres et notables. Le caractère sacré de la personne humaine, ça c'est pas une invention de Jésus, c'est le judaïsme auquel il appartient. La distinction du pécheur et du péché. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Le principe de laïcité, encore que il faudrait s'entendre sur sa définition, mais ce ne sera pas le thème de ce soir. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. La pratique de la non-violence comme seule et unique force politique féconde. À tel point d'ailleurs que des non-chrétiens l'ont expérimenté, on peut penser à un Gandhi, mais très largement inspiré par l'Évangile. Et puis, de façon un petit peu générale, le fondement de toute piété, de toute attitude religieuse sur l'amour. Celui qui dit qu'il aime Dieu et qu'il n'aime pas son prochain, celui-là est un menteur. Mais on peut s'interroger pourquoi notre époque, notre modernité, tiraillée qu'elle est, prise en tenaille qu'elle est entre d'un côté les grands matérialismes individualistes qui défont petit à petit le tissu social et de l'autre le communautarisme intégriste qui propose une espèce d'extrême inverse, on peut se demander pourquoi notre culture, notre société contemporaine ne se retourne-t-elle pas vers ce visage oublié qui est celui du Christ. Mais peut-être parce que nous ne sommes pas complètement fous et que nous comprenons que nous retourner vers ce visage vous demanderait peut-être un peu trop. C'est-à-dire pas moins que changer notre vie. Alors mon propos, ce sera un propos grosso modo du Jésus de l'histoire au Jésus de la foi. Il y aura donc trois parties. Une première partie pour précisément explorer un tout petit peu cette tension, en tout cas, sinon opposition, entre le Jésus de l'histoire, c'est-à-dire le personnage historique tel qu'on peut le repérer par les sources, et puis le Jésus de la foi, c'est-à-dire celui auquel croient les croyants, les chrétiens. Donc ce sera une première partie, Jésus de l'histoire et Jésus de la foi. Une seconde partie s'intitulera « La vie de Jésus, une interpellation pour tout homme ». Il s'agira d'explorer un tout petit peu l'enseignement et la vie du Christ. Et puis une troisième partie qui s'intitulera « De la résurrection de Jésus au Christ, deuxième personne de la Trinité ». Donc on aura fait tout le parcours, évidemment à grands traits, de façon forcément schématique, entre le Jésus tel que la science historique peut en parler, jusqu'au Jésus, tel que seule la foi de l'intérieur peut en parler. Alors, première partie, Jésus de l'histoire et Jésus de la foi. Et tout d'abord, pourquoi une opposition entre les deux? D'abord, une première remarque. Les chrétiens, parfois, ont peur de la méthode historique et de la démarche historique. Parce qu'ils ont peur, au fond, que le travail de l'historien mette en doute l'évangile, la révélation et finalement les articles du Credo. Donc si on réfléchit bien, un chrétien ne peut pas avoir peur de la démarche historique puisque le propre du christianisme, c'est précisément que c'est une religion historique. Le propre, quand je dis le christianisme, je ne sépare pas tout l'héritage biblique, hein. Judaïsme et christianisme, qui pour moi ne font qu'une religion, mais ça c'est une autre question. Le propre de cette tradition-là, c'est qu'elle est précisément historique. C'est une tradition où il est dit que Dieu fait alliance avec un peuple, et finalement, Dieu s'incarne en un homme, et tout ce processus est un processus repérable dans l'histoire, qui n'est donc pas un récit collectif de type mythique. C'est ce qu'on appelle l'incarnation. Et donc, un chrétien qui prend l'incarnation au sérieux, doit prendre au sérieux la recherche historique sur Jésus, parce que Jésus, le moins qu'on puisse attendre de lui, c'est qu'il ait précisément eu une existence historique. Sinon, on en fait une espèce de mythe. Vous voyez qu'un chrétien qui refuserait la méthode historique serait un chrétien qui ne croirait pas en l'incarnation. Donc c'est très important déjà de souligner cette dimension d'incarnation de la foi chrétienne. On pourrait faire un parallèle rapide avec l'islam. Le message du Coran n'a pas d'inscription historique puisque c'est un message intemporel. Qu'il soit donné à différents prophètes au cours de l'histoire, le dernier étant Mahomet, ça c'est une chose. Mais le contenu du Coran est un message intemporel. Il n'a rien d'historique, ça n'est pas son propos. Alors, pourquoi toutefois cette crainte chez de nombreux chrétiens de la méthode historique, c'est qu'il faut bien le dire, au XIXe siècle, la critique historique s'est tournée vers les évangiles et on a remis en cause assez largement la validité. On a critiqué les évangiles parce qu'ils étaient des témoignages. Et, en effet, les évangiles sont des témoignages. Dans les évangiles, des témoins de la vie du Christ, de sa résurrection, ou bien des témoins des premières communautés chrétiennes, brossent un récit de la vie du Christ. Et effectivement, ils le brossent de l'intérieur de la foi. D'où le soupçon porté par la critique historique, hein, est-ce qu'au fond, ça n'est pas une espèce de relecture qui se détache de la vérité historique? Alors, vous savez, un certain nombre d'auteurs ont produit des vies de Jésus. C'est-à-dire, il s'agissait, par-delà l'évangile, par-delà le témoignage de l'apôtre, de retrouver ce que l'on pouvait dire de certains en plein historique sur la vie de Jésus. Alors, le plus célèbre, c'est Renan, mais bien d'autres se sont essayés à ce genre littéraire. Souvent dans le protestantisme, mais pas seulement. Et une grande figure du protestantisme, qui s'appelle Albert Schweitzer, qui est très connu comme médecin, vous savez, mais aussi qui était un exégète et un théologien, Albert Schweitzer brosse un tableau tout à fait critique et lapidaire sur toutes ces tentatives de retrouver le Jésus historique par-delà l'évangile. Ce que dit Schweitzer, c'est qu'au fond, chaque vie de Jésus parle mieux de son auteur que de Jésus. C'est-à-dire que tous ces critiques historiques ont cherché à établir une vie véritablement historique de Jésus, au fond, n'ont fait que projeter sur Jésus leur idéologie, leur préoccupation. C'est ainsi qu'on a des vies de Jésus rationalistes, on a des vies de Jésus nationalistes, libérales, anarchistes, plus tard on aura une lecture communiste, Jésus communiste, inconnu, pourquoi pas homosexuel, enfin, chacun y va de sa petite obsession, et finalement réécrit la vie de Jésus. Vous voyez que le présupposé rationaliste consiste à dire ce qui vient dans un discours de foi n'a pas de pertinence historique. Donc il faut retrouver la rationalité, la vérité, indépendamment de ce témoignage de foi, finalement aboutit à des choses très irrationnelles. Alors, Dieu merci, on est peut-être depuis une cinquantaine d'années entrer dans une démarche à la fois plus scientifique et à la fois plus modeste, moins idéologique. D'abord, les études sur le judaïsme ont fait d'immenses progrès, et donc on connaît beaucoup mieux le milieu où vivait Jésus, ce qui permet de beaucoup mieux comprendre les évangiles. C'est sûr que lorsqu'on a une culture judaïque, on comprend l'évangile très différemment de lorsque on n'a pas ce regard sur le monde dans lequel vivait Jésus. En même temps, la critique littéraire, l'exégèse scientifique, l'étude des genres littéraires dans la Bible, elle aussi ne cesse de faire des progrès. De sorte qu'on arrive à rentrer dans l'intelligence des textes de l'Évangile, sans tomber dans des espèces de lectures naïves, fondamentalistes, et en même temps sans tomber dans le soupçon rationaliste qui voudrait que, au fond, tout ça soit une espèce de réécriture d'un mythe. J'ai oublié de citer, alors quand même, un des plus grands théologiens qui ont voulu, donc, j'allais dire, faire le tri dans l'évangile entre ce qui est mythologique et ce qui n'est pas, c'est Bultmann, donc un exégète allemand, qui s'est vanté de vouloir démythologiser, pardon, pour le bon mot, démythologiser les évangiles, faire le tri entre ce qui serait crédible, rationnellement, et ce qui serait une espèce d'écriture poétique, allégorique, de l'ordre du mythe. Malheureusement, dans cette démarche-là, tout devient mythologique. Et finalement, il n'y a plus grand-chose à garder de l'évangile. Comme si le personnage historique de Jésus se diluait dans une espèce de réécriture. Alors, comme je le disais, on est sorti de cette outrance-là, où l'on a aujourd'hui un regard beaucoup plus équilibré sur la rédaction des évangiles, de sorte que on peut considérer que les évangiles sont pour une part des récits historiques, ou sont des récits historiques d'une certaine façon, mais bien entendu pas de la manière dont aujourd'hui on écrit, par exemple, une biographie de Napoléon. Ça n'est pas le propos des évangélistes. Le propos des évangélistes, c'est de rendre témoignage de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont entendu, dans le regard de la foi qui leur permet de comprendre rétrospectivement ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu. Mais une juste approche aujourd'hui ne consiste pas à soupçonner ce regard a priori, mais à considérer qu'il est un témoignage historique. Même qu'au Moyen-Âge, on a des chroniques qui racontent tel ou tel événement. On sait bien que la chronique est marquée par le regard, par la subjectivité de l'auteur. N'empêche que c'est un témoignage historique. Voilà. Un des indices de véracité des évangiles, me semble-t-il, il y en a d'autres certainement à souligner, c'est la grande propension des évangiles, des auteurs de l'évangile, à se dénigrer eux-mêmes. Parce que, alors, pour une relecture, ce qui est très frappant, c'est que, très régulièrement, on nous apprend que les témoins, que ces fameux témoins de la vie du Christ, n'ont rien compris au film. Et très souvent, on insiste sur le fait que Pierre s'oppose à ce que le Christ veut faire, que les évangélistes se bagarrent pour savoir qui sera le premier dans le royaume, et qu'au fond, ils ne comprennent jamais rien. Et cette espèce d'insistance sur l'incompréhension, l'incrédulité, si vous lisez les récits des apparitions du Christ ressuscité, c'est frappant, cet accent sur l'incrédulité. On n'y croit pas. Dans un texte mythique, on y croit. La question même d'y croire ne se pose pas. C'est un récit qu'on doit accueillir tel quel. Ici, on a quelque chose de très historique. Dans cette mise en question systématique, vous voyez ce que je veux dire, lorsqu'on lit l'Évangile, sans cesse, les apôtres, les disciples, ont le mauvais rôle. Le rôle de celui qui n'a pas compris, qui passe à côté. Alors, maintenant, après ce premier jet hein, sur cette opposition, juste pour bien me faire comprendre, hein, on a eu tendance au XIXe siècle à opposer le Jésus historique, il y a un homme qui a vécu au 1er siècle à Jérusalem en Galilée, bon, et puis l'écriture des évangiles qui serait une façon d'élaborer un mythe autour de cet homme. Et donc on parle d'un côté du Jésus de l'histoire, d'accord, et de l'autre du Jésus de la foi. Ce que j'ai essayé de montrer, c'est que cette opposition est dépassée. Et qu'aujourd'hui, il n'y a pas lieu d'avoir un... Bien entendu que quand on étudie l'évangile du point de vue exégétique, hein, il y a tout l'arsenal de la critique historique qui fonctionne. Et c'est très bien. Parce que je le disais au début, un chrétien n'a pas à avoir peur de cette recherche, puisque précisément cela lui permet de mieux toucher la vie du Christ. Mais il n'y a plus cette opposition entre le Jésus de la foi et le Jésus historique. Mais j'ai parlé des sources historiques et je ne les ai pas vraiment évoquées. Alors rapidement, parce que là c'est des choses que vous devez connaître, quelles sont les sources historiques qui nous parlent du personnage qui a vécu un certain moment de l'histoire. Il est tout de même important de les citer puisque on entend quand même dans l'opinion, parfois on ne sait même pas s'il a existé. Il se trouve que c'est un des personnages historiques dont on peut être à peu près sûr qu'il a existé. Au moins autant que des grandes figures de l'Antiquité qu'on connaît par ailleurs. Cela dit, la plus grosse partie des sources historiques, à peu près 95%, ici, pour donner un ordre d'idée, sont chrétiennes. C'est bel et bien par le Nouveau Testament que l'on connaît la vie du Christ pour l'essentiel. Vous savez que le Nouveau Testament compte 4 évangiles canoniques. Les actes des apôtres qui sont en fait la suite de l'évangile de Luc, qui sont de la main de Luc, et puis une série d'épîtres, hein, de lettres, de Paul, de Jean, de Jacques, etc. Le tout se terminant par ce texte singulier qui est l'Apocalypse, qui est peut-être un des derniers textes écrits le plus tardivement, c'est-à-dire à l'époque des premières persécutions chrétiennes. On peut ajouter cependant ce qu'on appelle les textes apocryphes. Les textes apocryphes sont les textes qui n'ont pas été retenus par le canon de la Bible, en particulier parce qu'ils sont souvent plus tardifs, et qui sont très souvent écrits par des communautés, disons, hérétiques, en l'occurrence souvent gnostiques. Et donc il y a des accents idéologiques qui contredisent peu ou prou le message évangélique. Bon, c'est une littérature qui est tout à fait accessible, hein, les évangiles apocryphes, ça se trouve de partout, on essaie d'entretenir une ambiance de mystère autour de ces textes, qui sont parfaitement connus, d'ailleurs étudiés, et éventuellement tout à fait source d'informations historiques. Ils font aussi partie des documents de l'histoire. Du côté des sources non chrétiennes, alors on peut citer les sources juives et romaines, là je le ferai très vite, d'ailleurs il n'y en a pas beaucoup, il y a bien sûr l'historien juif du 1er siècle, Flavius Joseph, qui évoque les communautés chrétiennes et même le Christ dans un texte célèbre, même si ce texte, on le sait, a été retouché par des chrétiens, pour les besoins, en quelque sorte de la cause, c'est une relecture. Je vous le lis quand même, si vous ne le connaissez pas, il est intéressant. La vie de Joseph écrit dans les Antiquités juives. À cette époque, vécut Jésus, un homme exceptionnel, car il accomplissait des choses prodigieuses. Maître de gens qui étaient tout disposés à faire bon accueil aux doctrines de bonne loi, il se gagna beaucoup de monde parmi les Juifs et jusque parmi les Hellènes, les Grecs. Lorsque sur la dénonciation de nos notables, Pilate l'eut condamné à la croix, ceux qui lui avaient donné leur affection au début ne cessèrent pas de l'aimer, parce qu'il leur était apparu le troisième jour de nouveau vivant, comme les divins prophètes l'avaient déclaré. Et à partir de là, on pense qu'une partie du texte a été réécrite par les chrétiens. Peu importe, ça montre que Flavius Josèphe connaissait tout à fait l'existence du Christ. Chez les écrivains romains, on en cite trois, Suétone, Pline et Tacite. Je ne vous citerai qu'un extrait de Pline. Donc c'est à l'époque, au IIe siècle, à l'époque de l'empereur Trajan, et des persécutions. Voilà ce qu'écrit Pline. Toutes leurs fautes, il parle des chrétiens, toutes leurs fautes ou leurs erreurs ont-ils confessé, s'étaient bornés à se réunir habituellement à date fixe, avant le lever du jour, et à chanter entre eux un hymne à Christ comme à un Dieu. Ils s'engageaient aussi par serment, non pas à accomplir tel ou tel crime, mais à ne point commettre de vol, de brigandage ou d'adultère, à ne point revenir sur une foi jurée, etc. Donc c'est un texte qui est alors plutôt bienveillant. En contrepartie, on a le texte extrêmement critique de Tacite, qui raconte le fameux incendie de Rome provoqué par, lié à Néron, mais bon, c'est que Néron a fait porter le chapeau aux chrétiens. Et c'est là que Tacite parle des chrétiens en disant « On commença donc par se saisir de ceux qui confessaient leur foi, puis sur leur révélation d'une multitude d'autres, qui furent convaincus moins du crime de l'incendie que de haine contre le genre humain. » C'est le fameux thème du reproche qu'on fait aux chrétiens dans la société païenne, de haine du genre humain parce qu'ils ne sacrifient pas aux idoles et parce qu'ils refusent le culte de l'empereur. Alors voilà pour ces sources romaines, non chrétiennes, disons, pour signifier que donc on parle de Jésus en dehors des évangiles et du Nouveau Testament. Et puis il faudrait ajouter toutes les découvertes de l'archéologie. C'est-à-dire que l'archéologie découvre encore aujourd'hui des sites chrétiens très très anciens, qui peuvent dater même du 1er siècle, c'est-à-dire qui peuvent avoir été contemporains de Jésus. Et lorsqu'on constate qu'un lieu, par exemple, je pense à la maison de Pierre à Capharnaüm, peut-être certains ont visité Capharnaüm, on voit la maison de Pierre, la maison de l'apôtre Pierre. Voilà. Eh bien, on voit que dès le 1er siècle, ce lieu a été vénéré comme un lieu source. Et là, on a des espèces d'indices historiques intéressants. Je vous rappelle aussi la fameuse découverte du... Bien si c'est dans les années 50 ou 60, le Ponce Pilate n'était connu que par l'Évangile. Donc on pouvait soupçonner que c'était un personnage qui n'avait pas peut-être forcément existé, qui ne portait pas ce nom-là. Et en fait, on a trouvé une dalle romaine avec inscrit le nom de Ponce Pilate. C'était une espèce de confirmation extérieure à l'Évangile, une dimension véridique du texte. Voilà donc pour cette première partie, donc, le Jésus de l'histoire et Jésus de la foi, faut-il les opposer ou faut-il au contraire les articuler? Alors moi évidemment je vais chercher à les articuler, hein, et donc je vais rentrer un petit peu plus dans le témoignage majeur que nous avons, qui est celui des évangiles. Je ne parle pas du point de vue de la foi dans cette seconde partie. Je lis comme n'importe quel historien pourrait lire les évangiles. Récemment, d'ailleurs, un historien, Christian Petit-Fils, a fait une lecture, Jean-Christian Petit-Fils, a fait une lecture historique de l'évangile, tout à fait intéressante. Voilà, moi, j'étais à ma modeste mesure et de façon évidemment très raccourcie. J'intitule cette partie, qui sera la plus longue, La vie de Jésus, une interpellation pour tout homme. Premier point, qui sera plus long aussi d'ailleurs, je l'intitule « L'enseignement du Rabbi Yeshua », si je l'appelle comme vous avez écrit très longtemps en Sorbonne, « Rabbi Yeshua », un rabbi parmi d'autres, « L'enseignement de Jésus entre continuité et rupture ». Parce qu'évidemment, c'est une grande question de savoir si Jésus est un juif qui déborde le judaïsme, qui le réforme, voire pour certains qui le contredit et qui invente une nouvelle religion. L'enseignement de Jésus entre continuité et rupture. Alors, je vais d'abord montrer en quoi Jésus est en parfaite continuité en tant que prédicateur avec le judaïsme de son temps, et puis montrer petit à petit en quoi son message, de fait, provoque une crise dans le judaïsme. Est-ce qu'il l'accomplit? Est-ce qu'il le contredit? En tout cas, il provoque une crise, laquelle est certainement à l'origine de sa condamnation, si on voit les choses d'un œil tout à fait profane. Alors, d'abord, je commence par des remarques de bon sens. Jésus, donc, si l'on en croit l'évangile de Jean, qui est l'évangile dont la chronologie est la plus assurée, Jésus aurait prêché 2 ans et demi. Il serait mort, enfin, là pour le coup, ça c'est un autre trait historique intéressant, c'est qu'on connaît avec une très grande probabilité la date exacte de sa mort, c'est très rare pour un personnage d'Antiquité, hein, tout simplement parce que c'était la Pâque. Donc on sait de quelle année c'était la Pâque, donc il est mort le vendredi 7 avril de l'année 30. Bon. Très bien. Ce que je veux dire ici, c'est que donc Jésus a prêché durant 2 ans et demi, parcourant les routes de Galilée. Il a prêché, donc, il a, semble-t-il, produit des signes, j'y reviendrai tout à l'heure, qui ont surpris, qui ont enthousiasmé et qui ont aussi scandalisé. Et parfois, surpris, enthousiasmé et scandalisé les mêmes personnes. Donc, ses disciples. Mais il est clair qu'il n'est pas du tout le seul prédicateur, il n'est pas le seul rabbi en Israël. Et bien des aspects de son enseignement sont en parfaite consonance avec celui d'autres maîtres en Israël. Par exemple, ces interminables controverses avec les pharisiens ou les sadducéens ne sont pas choses extraordinaires et exceptionnelles. Dans le judaïsme, on est dans la controverse normale. Donc quand on voit Jésus, par exemple, soumis à des espèces de questions pièges, vous savez, par exemple, l'histoire de la femme qui s'est remariée 7 fois, de qui sera-t-elle le mari au ciel? Alors, qu'est-ce que c'est que cette controverse? C'est qu'elle est faite par les sadducéens. Pourquoi? Parce que les sadducéens ne croient pas en une vie après la mort. Ils sont les juifs du temple. Ils ne croient pas en une vie après la mort parce que c'est une croyance récente dans le judaïsme, qui n'est pas dans la Torah. En revanche, les pharisiens y croient. Et donc Jésus, de ce point de vue-là, est très proche des pharisiens. Donc quand Jésus rabroue les sadducéens en leur disant « Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants », les pharisiens, de leur côté, sont très contents et se frottent les mains. Donc il participe à des débats, à des querelles, qui sont choses tout à fait normales. Par ailleurs, sa manière parfois très dure, très violente, de stigmatiser l'hypocrisie de certains hommes religieux de son temps, hein, lorsqu'ils stigmatisent une religion formaliste ou orgueilleuse, et là parfois il s'en prend durement aux pharisiens, un sépulcre blanchi, vous faites porter des fardeaux aux autres et vous ne les portez pas. Ce type de prédication est une prédication qui fait beaucoup penser aux prophètes de l'Ancien Testament. Quand on lit, par exemple, le prophète Amos, on a tout à fait le même genre de diatribe, violente, mais qui touche juste, très dur. Voilà. De ce point de vue-là, l'enseignement de ce rabbi fait songer à celui des prophètes de l'Ancien Testament. D'ailleurs, lui-même dira, un prophète n'est jamais accueilli chez les siens. Il y a, par rapport à d'autres rabbis, certainement des dimensions originales, mais un vrai rabbi est toujours un original. Donc, je cite quelques dimensions originales de l'enseignement de ce rabbi, mais qui n'en font pas quelqu'un d'extérieur à la vie du judaïsme. Par exemple, sa lecture du premier commandement, « Un seul Dieu, tu adoreras », et sa manière de le fondre avec le second, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Ces deux commandements sont dans l'Ancien Testament. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » est un commandement de l'Ancien Testament. Mais l'originalité de ce rabbi, c'est qu'il dit « Ces deux commandements n'en font qu'un ». Alors ça, de toute évidence, les spécialistes du judaïsme le reconnaissent, c'est quelque chose de nouveau. Que ces deux commandements n'en fassent qu'un. C'est-à-dire que l'amour du prochain, jusqu'à l'amour des ennemis d'ailleurs, autre originalité, soit l'authentification de la foi en Dieu, ça c'est quelque chose, semble-t-il, d'original. Bien sûr, il y a un lien dans le judaïsme, attention. Mais d'aller jusqu'à dire que ça, cela ne fait qu'un commandement, ça c'est original. Autre originalité, mais ce ne sont que des exemples, vous savez la parabole du bon samaritain. Bien sûr, il faut aimer son prochain comme soi-même. Le problème, c'est qui le prochain? Pour un juif de cette époque, il n'est pas du tout évident que le prochain, ça aille jusqu'au lointain et surtout jusqu'à l'ennemi. Or, dans la parabole du bon samaritain, un juif interroge Jésus, un pharisien interroge Jésus en lui demandant « Mais qui est mon prochain ?» Et Jésus répond comment? Par la parabole. Mais je ne sais pas si vous avez été attentif. La pointe de la parabole, bien sûr, c'est un personnage, tout le monde connaît l'histoire, mais avez-vous remarqué que le pharisien demande « Qui est mon prochain ?» et que Jésus lui répond « De qui cet homme s'est-il montré le prochain ?» C'est-à-dire que Jésus inverse le sens de la question. La question n'est pas « Qui est mon prochain ?» mais c'est « Est-ce que moi je suis capable de me faire le prochain de n'importe qui ?» comme fait le pharisien. Vous voyez, là, il y a un enseignement. Alors, comme toujours, les paraboles sont des faux récits simples. Les paraboles sont tout sauf simples. Tout sauf simples. C'est jamais simple, une parabole. Il faut toujours chercher le lieu où ça coince. Le lieu où il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est là où tout s'éclaire. Donc, le sens du prochain est un sens actif. Je dois être le prochain de tout homme jusqu'à mon ennemi. De ce point de vue-là, donc, cet enseignement est original, mais ne marginalise pas du tout Jésus en tant que rabbin. D'ailleurs, lui-même dit qu'il veut accomplir la loi et non pas l'abolir. C'est l'enseignement d'un juif pieux, d'un maître en Israël, comme le reconnaissent beaucoup de ses interlocuteurs. D'ailleurs, lui-même semble privilégier les brebis d'Israël. Il le dit à la Cananéenne. Je suis venu pour les brebis d'Israël. Et en même temps, on sait très bien que cet enseignement très vite prend une tournure universaliste. Quand Jésus s'adresse à la Samaritaine, cette fois-ci, il lui dit « Crois-moi, femme, bientôt ce n'est ni à Jérusalem ni sur cette montagne qu'on adorera Dieu, mais ce sera une adoration en esprit et en vérité. » Donc il y a une dimension universaliste de cet enseignement. La foi que Jésus donne en exemple, c'est la foi d'un centurion romain, la foi d'un païen. Il y a donc quelque chose comme un mouvement vers l'universel dans cette prédication de Jésus. Mais rappelons-nous cependant que le judaïsme a cette vocation universelle. Donc, quelque part, Jésus est quelqu'un qui rappelle au judaïsme sa vocation universelle. Parce que trop souvent, les chrétiens en particulier disent « Oui, mais le judaïsme est fermé sur soi, c'est le peuple élu, donc c'est pas les autres. » Et attention, le peuple est élu pour une mission, lourde mission d'ailleurs, le peuple est élu pour une mission pour être la lumière des nations, la lumière des nations païennes. La vocation d'Israël, c'est de répandre la justice dans le monde entier. Et d'ailleurs, on sait qu'à l'époque de Jésus, bien des païens s'étaient convertis au judaïsme. Pour faire le texte de la Pentecôte, c'est bien, fête juive de la Pentecôte, qui sait qu'arrive à Jérusalem, des Arabes, des Crétois, des Syro-Phéniciens, etc. Tout le bassin méditerranéen, beaucoup de juifs, beaucoup de païens se sont convertis au judaïsme. Il est possible qu'à l'époque de Jésus, enfin c'est même un fait historique, à l'époque de Jésus, l'oppression romaine faisait que le judaïsme était bien obligé de se replier, se serrer les coudes, et donc était plutôt dans une démarche d'attente d'un libérateur politique et pas tellement de rayonnement universel. C'est possible. Mais Jésus, en rappelant la vocation universelle d'Israël, se comporte tout à fait dans l'esprit de ce qu'est le judaïsme. Donc vous voyez, jusque-là, Jésus est un rabbin à l'enseignement remarquable, mais qui ne met pas en péril ou en crise la foi juive. Alors j'arrive maintenant aux dimensions plus difficiles. La difficulté commence avec le rapport de Jésus à la loi. Si on lit l'évangile, on a quelque peu l'impression que Jésus relativise la pratique de la loi. Il ne relativise pas la loi d'ailleurs, puisqu'il dit « pas un iota de la loi ne sera effacé ». Il relativise tout de même la manière de pratiquer la loi, puisqu'il prend ses libertés par rapport au sabbat, et puisqu'il semble même pouvoir lui-même corriger l'expression de la loi. C'est le fameux discours sur la montagne dans Saint Matthieu. On vous a dit, et moi je vous dis. J'ai envie de dire, peu importe le contenu de ce qu'il dit, la pointe est dans l'opposition, on vous a dit et moi je vous dis. Qu'un juif dise cela, c'est quand même très problématique, parce que qui est-ce qui nous a dit c'est Moïse, c'est Dieu par Moïse. Donc, si Jésus se permet de dire et moi je vous dis, c'est que au moins il se considère lui-même comme un nouveau Moïse. Et ça va même aller plus loin. Je vous rappelle ces quelques enseignements. Vous avez entendu qu'il est parmi. Vous avez entendu qu'il a été dit tu ne tueras point. Eh bien, moi, je vous dis, quiconque se fâche contre son frère en répondra au tribunal. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas l'adultère. Eh bien, moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà commis dans son cœur l'adultère avec elle. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne te parjureras pas. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas jurer du tout. Vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas tenir tête aux méchants. Au contraire, quelqu'un te donnerait-il un soufflet sur la joue droite, tendu la joue gauche, etc. On vous a dit. Vous avez entendu qu'il a été dit tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis aimez vos ennemis, priez pour vous persécuter. Donc, c'est pas tant la radicalisation du contenu de la loi, parce que Jésus radicalise la loi. On entend parfois des chrétiens dire ben, la loi d'amour, l'évangile, c'est beaucoup plus facile, c'est sympa. Bon. Vraiment, quel radicalisme. Enfin, si, voilà, comment vivre ces exigences-là. Mais ce n'est pas tant la radicalisation qui est encore dans l'esprit du judaïsme que le « on vous a dit et moi je vous dis ». Jésus semble tenir ici une position qui est une position parfaitement inédite. Il radicalise donc la loi, il se pose comme l'égal de la loi elle-même, il se pose comme quelqu'un qui, d'une certaine façon, est aussi grand que le sabbat. Il y a ici plus que le sabbat. Aussi grand que le sabbat, aussi grand que la loi. Je vous renvoie au fameux commentateur juif de l'évangile que cite Benoît XVI dans son livre sur Jésus, donc c'est un juif qui n'est pas chrétien, et qui, lisant le sermon sur la montagne, c'est ça, dit « Quand j'entends cela, j'entends que Jésus se place à l'égal du sabbat et à l'égal de la loi, c'est cela qu'en tant que juif, je ne peux pas prendre. » Il y a une très belle page dans ce livre de Benoît XVI, qui, avec un dialogue très respectueux hein, de cette position juive qu'il a, ne peut pas entendre. Ça. Je voudrais vous renvoyer à un autre texte dont la pointe peut elle aussi nous échapper, il est très connu, c'est le récit du jeune homme riche dans Saint Marc. Je ne lirai même pas parce que vous le connaissez, je vous cite quand même, je vous donne quand même ma référence, c'est Marc au chapitre 10. Alors, vous connaissez l'histoire, un jeune homme se présente à Jésus et lui dit « Bon maître, rabbi, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Nul n'est bon que Dieu seul. C'est-à-dire Jésus, en bon juif, renvoie l'adoration au seul Dieu. Le problème, c'est la suite. Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu? Tu connais les commandements. Deux points. Rappelez-vous, il y a une petite liste de commandements. Jésus cite combien de commandements? Six. Tu connais les commandements, deux points, comme si le lecteur ne les connaissait pas, on lui rappelle. Et on n'en cite que six. Bizarre. Quels sont ces six commandements? Je les lis. Ne tue pas, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne porte pas de faux témoignages, ne fais pas de tort, honore ton père et ta mère. Ce sont les six derniers. Ce sont les commandements de la pratique humaine. Manquent les quatre premiers commandements. Ils sont les commandements de la piété. Un seul Dieu tu adoreras, tu ne feras pas d'image du Dieu, etc. Il est quand même très étrange qu'un rabbi aussi vif, affûté que Jésus, disant, citant les commandements, n'en cite que six. Surtout que tout lecteur juif les connaît de toute façon par cœur, donc à quoi bon les rappeler? Pourquoi l'évangéliste a cru bon de citer les six commandements? Ben, c'est à cause de la suite. Maître, lui dit le jeune homme, j'ai observé tout cela dès ma jeunesse. Jésus fixe sur lui son regard et remarque, très bien, et lui dit, deuxième pointe, une seule chose te manque. Viens et suis-moi. Donc Jésus a cité les six commandements des devoirs envers le prochain, comme si c'était tous les commandements, et quand le jeune homme riche dit, cela ne me suffit pas, il lui dit une seule chose seulement, il devrait lui dire, il y a encore quatre commandements, qui sont les commandements de la vraie piété, il lui dit une seule chose seulement, viens et suis-moi. C'est-à-dire que là, très clairement, vous voyez, ça nous échappe sans doute à la lecture, très clairement, Jésus se pose comme l'accomplissement de la piété, comme pouvant se substituer d'une certaine façon, non pas remplacer, non pas rendre caduque, mais accomplir les quatre grands commandements de la piété. En tout cas, voilà ce que le texte nous dit. Qu'on l'entende, je comprends très bien qu'un juif ne l'entende pas, il refuse de l'entendre. Mais voilà ce que le texte nous dit. Il est intéressant de le constater. Et donc, vous voyez que on arrive petit à petit au point de crise de cet enseignement de Jésus, de ce rabbin, décidément différent des autres. On voit qu'il y a une radicale nouveauté dans cet enseignement, que ces propos laissent deviner. Mais quelle est cette nouveauté? Je crois qu'on l'a compris maintenant, cette nouveauté, ça n'est pas des préceptes nouveaux, je suis venu accomplir la loi, cette nouveauté, c'est lui-même, c'est sa personne même. La nouveauté de l'enseignement de Jésus, c'est Jésus. Je le disais tout à l'heure, il se présente comme étant aussi grand que le sabbat et que la loi, mais aussi, et je vais citer d'autres lieux de radicale nouveauté de cet enseignement, Jésus pardonne les péchés. Rappelez-vous le passage paralytique, on descend un paralytique par le toit d'une maison, et le paralytique dont on peut supposer qu'il espérait être guéri de sa paralysie, le pauvre, on lui dit, tes péchés sont pardonnés. Vraiment pas la parole qu'il attendait. Or, il va s'en suivre une espèce de discussion un peu tendue avec les participants qui disent, mais qui est-il celui-là pour pardonner les péchés? Seul Dieu pardonne les péchés. Là encore, Jésus se positionne d'une manière radicalement nouvelle. Dans l'évangile de Jean, c'est ces longs chapitres. On a toujours un peu de peine à lire, parce qu'il faut vraiment les méditer, j'ai la tête reposée, chapitre 13, 14, 15, 16, 17, le long discours de Jésus avant la Passion. Bien entendu, c'est un discours qui est réécrit. C'est évident qu'il n'y avait pas d'enregistreur dans la salle, mais il a été réécrit par les disciples, il a été réécrit par Jean ou par ses disciples, en fonction de ce qu'ils ont compris dans l'enseignement du Christ. Or, dans ce long discours, hein, Jésus témoigne d'une intimité avec Dieu, qui est une intimité parfaitement nouvelle, parfaitement inouïe. Je vous en cite deux, trois extraits. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais c'est le Père qui, demeurant en moi, fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Et je crois que j'ai dit, vous voyez la répétition, Père. Le Père est en moi, je suis dans le Père. Donc il y a une intimité entre Jésus et celui qu'il appelle son Père. D'ailleurs, une formulation nouvelle aussi dans le judaïsme, Abba, une formulation tendre et affectueuse. En quelques lignes, la chose est dite trois fois, et si je vais un peu plus loin, elle va être redite, hein, réapprofondie. Un peu plus loin, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Comme si les disciples étaient invités à participer de cette communion des personnes. Un peu plus loin, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, et nous ferons chez lui notre demeure. Et donc on pourrait continuer longtemps sur cette étrange méditation du Christ, on imagine, s'il a prononcé ainsi, on peut penser que non, on peut penser que les disciples, les écrivains ont rassemblé des passages, des bribes, des morceaux. En tout cas, quelque chose d'entièrement nouveau ici est montré. D'autres passages sont tout aussi scandaleux. Avant qu'Abraham ne fût, j'étais. Et puis, le fameux texte qui provoque un schisme dans la communauté, qui boit mon sang et mange ma chair aura part à la vie éternelle. Vous savez, et là, le réalisme du récit évangélique, à partir de ce moment-là, la plupart des gens se détournèrent. Voilà. Donc, il y a, dans cet enseignement, si l'on en croit le témoignage évangélique, une rupture. Il y a un enracinement dans la prédication juive, dans la piété juive, et il y a en même temps une rupture. De sorte que, finalement, les évangiles sont écrits, au fond, autour d'une seule question. Il n'y a qu'une seule question qui est posée par l'évangile, c'est qui est cet homme? C'est la question posée par les évangiles. Alors, l'évangile où on le voit le mieux, c'est l'évangile de Marc. Vous savez, c'est plus court, le plus factuel, pas de grands discours, il a fait ci, il a fait ça, etc. Mais sans arrêt, le petit leitmotiv, qui est cet homme? C'est la question qui est posée très rapidement. D'ailleurs, les premiers qui semblent savoir quelque chose de Jésus, ce sont les démons. Et ensuite, la guérison du paralytique. Qui est cet homme qui peut pardonner le péché? La profession de foi de Pierre. La transfiguration et le point d'orgue de cet évangile, c'est le récit de la passion, c'est un homme agonise sur une croix et meurt, et un centurion romain, c'est-à-dire un païen, dit vraiment cet homme était fils de Dieu. Donc pour répondre à la question qui est cet homme, et on met la réponse dans la bouche d'un païen. Voilà pour cette partie. Sans doute un peu longue et sans doute qui aurait besoin de mille nuances, mais pour essayer de montrer, j'essaie vraiment de montrer une continuité entre, d'un côté, précisément la continuité de l'enseignement de Jésus dans le cadre du judaïsme de son temps, et en même temps des éléments de rupture qui sont extrêmement forts et qu'on ne peut pas nier. Quelques mots maintenant sur le contenu du message évangélique. Là, quel est le contenu de cette annonce, de ce message? En un mot, l'annonce du royaume. Si vous lisez le début de l'évangile de Marc, et ensuite le début de l'évangile de Luc, vous verrez que les événements cités sont... Alors pardon, le début de la prédication du Christ, hein, chez Marc, et puis chez Luc, qui n'est pas le début de l'évangile chez Luc. Vous verrez que des événements très différents sont racontés, mais que le même contenu du sens est annoncé. Il s'agit de l'annonce du royaume. Et dans les deux cas, on fait référence à un prophète qui est le prophète Isaïe. Le prophète Isaïe, c'est le grand prophète messianique, celui qui annonce les temps messianiques. Alors, dans Marc, par exemple, L'évangile de Marc s'ouvre sur cette citation d'Isaïe : Préparez les chemins du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Et Jésus entre en scène, si on peut dire, et la première parole qu'il prononce, quelle est-elle ? Vous vérifierez, hein ? Le temps est accompli et le royaume de Dieu est tout proche. Maintenant, je passe à l'évangile de Luc. L'épisode se passe dans la synagogue de Capharnaüm. C'est un épisode assez long et très intéressant. C'est une sorte de résumé de l'ensemble de l'évangile. On demande à Jésus de faire le commentaire de la Torah, comme on peut le faire auprès de n'importe quel juif. Et Jésus tombe sur le rouleau d'Isaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres, etc. Et Jésus referme le rouleau et dit, cette parole, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Vous voyez, même référence au prophète Isaïe, annonçant les temps messianiques, c'est-à-dire la fin des temps, et Jésus qui se place dans cette annonce, dans l'accomplissement de cette annonce, annonçant le royaume. Mais évidemment, ce royaume, on peut interpeller tout un chacun en se demandant bien qu'est-ce que c'est que ce royaume. Et lorsqu'on lit les paraboles du royaume, ce sont toujours les mêmes allégories, ce sont celles de la graine enfouie qui germe silencieusement. Le royaume est enfoui, discret, ne fait pas de bruit. Il est en croissance, il est en déploiement, il n'est pas accompli. Le royaume est déjà là, mais il est en germination. De sorte que chacun doit lire les signes et accueillir ce royaume ou ne pas l'accueillir. Alors, vous savez, c'est toutes les paraboles de la graine, c'est la parabole aussi du bon grain et de l'ivraie, qui est une parabole très, très fine, assez écœurante, hein, c'est-à-dire que le grain pousse, mais la mauvaise herbe pousse tout autant. Et plus le grain pousse, plus la mauvaise herbe se déchaîne en quelque sorte. C'est une métaphore, c'est une métaphilosophie de l'histoire, c'est-à-dire quand le bien semble prendre le dessus, le mal s'exaspère. Donc le combat du bien et du mal est un combat où les forces sont inextricablement liées. Et donc on demande, mais est-ce qu'on ne pourrait pas donner quelques coups de machette là, pour laisser pousser le bon grain? Et en totale incohérence agricole, parce que par exemple, ça ne marche jamais. Le semeur jette sur le chemin, enfin, ça ne marche jamais, c'est fait pour ça. C'est fait pour qu'on se rende compte que ça ne marche pas. Pour comprendre que le message est tout à fait autre qu'une espèce de lecture sympathique et naïve. Et donc les ouvriers disent au maître, bon, on va arracher le livret, là, on va tailler tout ça, et le maître dit non, c'est la tâche qui revient à Dieu à la fin des temps. C'est Dieu qui séparera définitivement le bien du mal. Donc on est dans un combat, le royaume progresse, le royaume se déploie dans l'histoire, et en même temps le mal se déchaîne. Et là, vous avez toute une théologie de l'histoire dans cette minuscule parabole qui tient quelques lignes. Toute une théologie de l'histoire qui va inspirer en particulier à Saint-Augustin, qui va en faire son fameux livre La Cité de Dieu, qui est une réflexion sur le sens de l'histoire. Voilà, ce que Jésus annonce, c'est le royaume, un royaume qui en fait consiste en sa personne. Qu'est-ce que le royaume ? C'est la personne du Christ. Nous donne à comprendre ces différentes paroles. Le royaume, évidemment, d'une certaine façon, n'est pas de ce monde, au sens où s'il est planté dans ce monde, il n'obéit pas aux règles de ce monde. Quelles sont les règles du royaume ? Y a-t-il une charte du royaume ? Oui, il y en a une. Ça s'appelle les béatitudes. Mais enfin, comme programme social et politique, ça n'est pas évident. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Quand on voit le spectacle de notre actualité, on se demande si les doux sont promis à grandes choses. Heureux les affligés, heureux les affamés, assoiffés de justice, heureux les miséricordieux, heureux les cœurs purs, heureux les artisans de paix, heureux même les persécutés pour la justice. Et bien sûr, si on projette, C'est un texte de subversion des valeurs de ce monde. C'est bien clair qu'ici, il y a une conversion. Ce que le Christ signifie, c'est qu'il y a une conversion des cœurs à opérer, et qu'au fond, la seule manière de comprendre cette conversion, c'est de regarder celui, le seul qui l'a vécu et qui l'a vit, c'est-à-dire lui-même. De sorte qu'on peut dire que les béatitudes sont en effet l'autoportrait du Christ. Avant tout, les béatitudes sont l'autoportrait du Christ qui est ce pauvre, cet infligé, cet affamé de justice, ce miséricordieux, ce cœur pur, cet artisan de paix, et celui qui est persécuté pour la justice, c'est lui. Voilà. Donc vous voyez, le royaume, c'est un vaste renversement des valeurs qui heurte le réalisme, le bon réalisme politique, qui est le nôtre. Et puis le royaume, Jésus en témoigne aussi par des signes. Pas seulement des paroles, pas seulement des paraboles, mais aussi des signes. Vous savez, le mot signe est traduit maladroitement, ou peut-être malencontreusement, dans les évangiles par miracle. Mais le mot en grec, c'est le mot signe, et c'est plus juste que miracle. Et donc je me permets de dire quelques mots sur cette réalité-là qui souvent pose problème justement dans un regard rationaliste. Un miracle, ça s'impose, et ça, idéalement, ça provoque la foi. Mais un signe, ça ne s'impose pas. Un signe, il faut encore un cœur ouvert et disponible pour l'accueillir. Il y a une parole terrible de Jésus, dans une parabole, la parabole du pauvre Lazare. Jésus termine sa parabole en disant « Un homme pourrait ressusciter des morts, il ne croirait pas ». Ça montre bien que dans la logique du spectacle, de la démonstration par le miracle, la foi n'a pas grand-chose à faire. Le miracle ne provoque pas la foi, le miracle est un signe qui fortifie la foi. Mais la foi précède le miracle. D'ailleurs, le Christ le dit souvent, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. Le miracle ne vise pas à convaincre, mais à renforcer la foi. D'ailleurs, on remarquera que Jésus refuse certains miracles, mais en fait, il les refuse à chaque fois que le miracle lui est demandé comme une mise à l'épreuve. Descends ta croix et le croiras, justement. Chaque fois que le Christ est mis à l'épreuve, donc dans une démarche d'un cœur qui se ferme, Jésus refuse le miracle. Vous connaissez la très belle lecture qu'en fait Dostoïevski dans la légende du grand inquisiteur. Le grand inquisiteur qui reproche à Jésus de ne pas avoir fait les miracles dans le désert, lorsque Satan lui disait « transforme les pierres en pain ». Et le grand inquisiteur qui lui dit « si tu avais fait cela, l'humanité tout entière aurait plié le genou et se serait retrouvée dans une grande communion, une grande adoration collective, et les hommes, c'est ça qu'ils veulent ». Ils ne veulent pas de ta liberté. Mais non, le miracle laisse libre, parce que le miracle est un signe. Et celui qui ne veut pas accueillir le signe, ne l'accueillera pas. J'arrive, parce que le temps tourne, à la passion du Christ, je dirais vraiment le strict minimum. On peut, pour le coup, en faire une interprétation historique tout à fait fournie et tout à fait pertinente, parce qu'il y a de nombreuses raisons à seule vue humaine qui rendent compte de cette passion. Cette provocation continuelle que le message du Christ finit par opérer dans le judaïsme de son temps, on voit bien que des factions, d'un côté les Sadducéens, de l'autre côté les Pharisiens, qui pourtant ne s'entendent pas, peuvent trouver ce prédicateur gênant. N'oublions pas le contexte politique avec ses troubles et ses agitations compulsives pour faire Barabbas, donc un climat de résistance, en fait, qui font que beaucoup de gens attendent que Jésus déclenche une révolution. Donc, ambiance explosive pour la Pâque, les Romains sont sur les dents, bref, il y a 10 000 façons d'expliquer la passion du Christ, c'est pas le problème. Le problème, c'est d'en comprendre le sens tel que l'Évangile, lui, le dit. Cela ne s'oppose en rien à la démarche historique. Jésus a été un personnage, en l'occurrence, historique, pris dans une situation politique particulière.
particulière.
Mais ce que dit l'Évangile se situe sur un autre niveau, sur un autre plan. Et que dit l'Évangile ? Il dit que cette passion doit être comprise non pas comme le résultat de conditionnement historique, mais comme un don volontaire. Jésus donne sa vie. Et il le dit, ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Jésus nous place face à une situation dans laquelle c'est lui qui est en réalité l'auteur de ce qui se passe. Et il va multiplier pour le coup les signes pour le manifester. Peut-être le plus frappant, c'est le signe du lavement des pieds. Celui qui se fait serviteur, le maître qui se fait serviteur. C'est d'ailleurs un signe que Pierre rejette violemment. D'ailleurs, dans l'évangile, Pierre est toujours celui qui ne veut pas de la passion. Et c'est sa grande marque de fabrique. Dès que Jésus annonce sa passion, Pierre se révolte. Non. Bien entendu, cette passion, quel est son sens? Pourquoi souffrir? Pourquoi mourir pour cette humanité décidément bien ingrate? Il faut avoir dans l'esprit la prophétie d'Isaïe et du serviteur souffrant. Lorsque les Juifs de Jérusalem sont déportés à Babylone, au VIe siècle, avant Jésus-Christ, le prophète Isaïe, enfin le troisième Isaïe, parce que dans les Isaïe il y a plusieurs auteurs, annonce non pas un Messie guerrier, libérateur, mais annonce un Messie souffrant. Personnage mystérieux que le judaïsme et le christianisme interrogent, chacun de son lieu. Personnage mystérieux qui est annoncé comme celui qui porte la violence, la souffrance, le péché du peuple. Et je vais vous relire ce texte parce que pour moi c'est l'un des plus beaux textes de l'Antiquité et de la Bible en particulier. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Le texte n'est pas fini, c'est un texte magnifique, qu'il faut lire dans toute son extension, et vous voyez, à travers ces quelques mots, ce sont nos souffrances qu'il a portées, nos douleurs dont il s'est chargé, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, nous avons, évidemment, la passion du Christ se réfère à cette prophétie. Et là, évidemment, on est, j'allais dire, à la limite de la foi, quoi. C'est-à-dire qu'un lecteur, un croyant, est obligé de faire ce rapport, libre à lui ensuite de reconnaître sur cet individu torturé sur la croix, celui qui porte le péché de l'humanité. Et là, c'est la foi, c'est l'acte de foi. Je ne suis pas, évidemment, contraint à cet acte de foi. On ne peut que contempler ce cadavre exsangue, et entendre le texte d'Isaïe. Mais c'est bien sûr ce qui donne la lumière sur ce texte. De sorte que là, et je bascule, j'allais dire pour le coup, dans la vision intérieure à la foi, chacun est invité à lire cette passion, non pas comme un fait historique malencontreux, mais comme un don qui lui est fait, à lui personnellement. Et ça s'appelle la foi. Ça ne se commande pas. De sorte que, et d'ailleurs ça coïncide avec une immense déception des apôtres, des disciples, Jésus n'est décidément pas le libérateur politique qu'on attendait. Les disciples d'Emmaüs le disent. Ils attendaient que l'on soit sauvé, libéré des Romains. Jésus n'est pas le libérateur que l'on attendait, il est l'homme de douleur, celui qui porte le péché du peuple. Et j'arrive donc à ma troisième partie. Rassurez-vous, elle sera plus courte possible. Et forcément, donc, ça va être encore plus schématique. de la résurrection de Jésus au Christ de la foi, et on dit, disons, au Christ du credo. Vaste thème, très rapidement. Je m'interroge sur la résurrection, sur précisément ce moment qui semble, pour le coup, échapper à l'histoire. Qu'un individu, Rabbi Yeshua, ait été crucifié un vendredi 7 avril de l'année 30, on a de bonnes raisons de penser que c'est un fait historique. Mais ça, ça n'est pas la foi. La foi, c'est cette annonce incroyable de ses disciples, de cet homme-là, Dieu l'a relevé. Il n'y a pas le mot résurrection dans l'évangile, c'est un mot qui signifie relèvement. Et il est clair que ce relèvement, cette résurrection, c'est le point de départ de la foi. C'est clair que les rédacteurs de l'évangile ont tout écrit dans la lumière de cette résurrection. Vous êtes d'accord, il n'y a pas eu un journal qui a été tenu depuis Nazareth jusqu'au Golgotha. Non, on a tout écrit dans la lumière de cette résurrection. C'est ce qui vient donner un sens à tout le reste. Et tout commence par un tombeau vide. Saint Paul le dit carrément, si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Alors, est-ce un fait historique? Ou plus précisément, je précisais la question, est-ce que c'est un fait que la démarche historique peut saisir? Réponse, non et oui. La démarche historique ne peut pas saisir ce fait de la résurrection au sens où, premièrement, personne n'a vu le moment de la résurrection. L'évangile ne dit rien de ce moment-là. Il y a des mauvais films qui l'imaginent. Mais l'évangile ne parle pas du moment de la résurrection. Il parle des rencontres avec le Christ ressuscité. Et d'autre part, ces rencontres avec le Christ ressuscité sont des rencontres, et le frère, la dernière fois, vous a allusé à cela, sont des rencontres qui sont données sur un mode sensoriel, disons, qui est un mode tout à fait inédit. C'est-à-dire que tout le monde ne le voit pas, tout le monde ne le reconnaît pas, il parle, on ne reconnaît pas sa voix, et puis finalement, c'est après coup, je fais allusion au disciple d'Emmaüs, c'est après coup que dans l'évidence du cœur, on le reconnaît. Ce qui semble montrer que la condition ressuscitée du Christ est une condition qui n'a pas grand-chose à voir avec les limites spatio-temporelles. Il apparaît, il disparaît, etc. C'est un corps, oui, il est bien corporel, mais c'est un corps, la foi dira, un corps glorieux, un corps spirituel. De sorte que la démarche historique qui, par définition, travaille dans l'espace-temps tel que nous le connaissons, ne peut pas, évidemment, toucher ces moments-là, les vérifier selon des schémas historiques. Donc ça, c'est pour le non. À la réponse, la démarche historique peut-elle toucher ce point? Pour le oui, certes, on ne peut pas toucher le fait même de la résurrection. En revanche, il apparaît tout de même qu'il y a eu un avant dans l'histoire des hommes et de l'humanité, des disciples évidemment, mais et il y a eu un après. Il y a des personnes qui ont été transformées par leur rencontre. Et il y a des gens qui se sont mis à prêcher, des juifs, des bons juifs qui allaient à la synagogue, qui ont d'ailleurs continué à y aller, qui se sont mis à prêcher cette foi inouïe et cet événement inouï, se sont exposés aux railleries et même à la persécution. Et ça, c'est un fait totalement historique. Donc, l'historien rigoureux est quand même obligé de se demander pourquoi il y a eu un avant et pourquoi il y a eu un après. De ce point de vue-là, on peut dire que l'événement résurrection en lui-même n'est pas atteignable, mais que les conséquences de cet événement le sont. Par exemple, moi je n'ai pas de compétences historiques particulières, mais par exemple, on peut se demander quel intérêt pouvaient avoir ces juifs pratiquants qui étaient Pierre, Jean, Jacques, tout en allant à la synagogue, de proclamer quelque chose qui est, première hypothèse, un mensonge, deuxième hypothèse, la vérité. Si c'est un mensonge, comment un juif pratiquant pieux et sincère peut vouloir dire un mensonge par rapport à sa foi, il se condamne. Il se condamne lui-même par rapport à sa propre foi. Et d'autre part, on pourrait dire qu'il y a un intérêt humain, la gloire ou je ne sais pas quoi, ils vont tous passer à la classe. Donc, au niveau des motivations, on ne voit pas exactement l'intérêt de la chose. Ou alors, effectivement, ils ont une expérience inouïe, singulière et collective, puisque semble-t-il ils étaient plusieurs, et cette expérience doit être entendue par l'histoire. Voilà, je ne vais pas plus loin par rapport à cet événement de la résurrection. Et je termine à toute allure, mais puisque le cycle continuera, peut-être on y reviendra. Le travail, la question « Qui est Jésus ?» ne s'est pas arrêtée là. Je dirais même que tout a commencé là, au fond. Si dans l'Évangile, on reprend ce leitmotiv « Qui est cet homme ? Qui est cet homme ? Qui est cet homme ?» c'est parce que les premières communautés chrétiennes se sont interrogées sur « Qui est cet homme ?» Il est fils de Dieu, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que être fils de Dieu, ça veut dire être un homme tellement dans la justice, tellement saint, disons, que Dieu l'a en quelque sorte reconnu comme l'un des siens ou comme son fils? Mais dire cela, ça n'est pas exactement ce qu'est la foi chrétienne. Parce que d'autres peuvent être reconnus comme fils, n'importe quel bon juif peut être reconnu comme fils de Dieu. Est-ce que dire qu'il est fils de Dieu, ça veut dire qu'il est co-éternel à Dieu? Donc, d'une certaine façon, son existence historique n'est qu'un aspect de son mystère. Ou bien, comme dira une hérésie qui s'appelle l'adoptionnisme, est-ce que c'est, parce que je disais à l'instant, un homme qui a été adopté comme fils par Dieu à cause de ses mérites? Voilà. Je fais allusion ici, de façon très maladroite, j'en ai conscience, à 3 siècles de batailles théologiques, de disputes, d'hérésies, desquelles sont sortis les fameux credos, en particulier le credo de Nicée-Constantinople, qui est toujours celui que partagent les églises, fruit de 2 grands conciles œcuméniques, qui ont cherché à dire davantage, mieux, qui était ce Christ. Et alors, tout ça, évidemment, ne peut pas être résumé trop rapidement, mais je vais dans le droit à l'essentiel. Ce que dit le dogme de la double nature du Christ, hein, le Christ est pleinement homme et pleinement Dieu, qu'est-ce que cela signifie et quels sont les enjeux de ce dogme, hein, très rapidement. Parce que vous savez très bien que ce dogme a été tiraillé entre ceux qui voulaient que Jésus soit un homme particulièrement saint et que Dieu adopte, et puis à l'inverse, que Jésus soit bel et bien Dieu, mais pas vraiment un homme. Que son apparence humaine, justement, n'est qu'une apparence. En particulier, il n'a pas souffert sur la croix, etc. Pourquoi est-il, dans la logique de la foi chrétienne, pourquoi est-il essentiel d'affirmer que le Christ est pleinement homme, pleinement Dieu? Parce que précisément, il est celui qui réconcilie l'humanité avec Dieu. Il est celui qui est en quelque sorte le pont sur l'abîme entre l'infini de Dieu, sa distance infinie, et la condition humaine. Il est en un mot le médiateur. Et il a bien fallu que ce Christ souffre, comme d'ailleurs dit le pèlerin d'Emmaüs, enfin le troisième pèlerin, ne fallait-il pas que le Christ souffre sa passion pour accomplir les Écritures? Il fallait bien qu'il souffre, qu'il donne sa vie pour porter les conséquences du péché de l'homme, pour porter la condition douloureuse de l'homme, en particulier sa mort. Le Christ est vraiment mort pour vivre une mort d'homme et sauver cette mort du désespoir et du néant. Alors ça, c'est la dimension du salut, et comme il y aura une séance dessus, donc j'insiste pas trop, mais n'oublions pas une autre dimension tout aussi importante, peut-être même plus, si le Christ, et ça les pères de l'Église nous le disent et nous le répètent, le Christ, en Jésus, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. C'est ce que la tradition orthodoxe et orientale appelle la divinisation. L'homme est fait pour vivre en Dieu. Et par le Christ, qui est ce médiateur entre l'homme et Dieu, l'homme peut être divinisé. C'est-à-dire que l'homme peut vivre la vie même de Dieu.